Les Canuts, troisième partie, chapitre 6. Dès le matin, les rues étaient sillonnées d'émigrants. Beaucoup de négociants, de boutiquiers, pris d'une panique soudaine, avaient abandonné leur comptoir, fermé leur magasin et allaient, avec leur famille, chercher un refuge à la campagne. C'était un encombrement de voitures de louage, de véhicules de tout genre, chargés de malles et de mobilier, croisant, le long des quais, les charrettes des laitières. Marius traversait le pont Nemours. Il se rendait place Saint-Jean, à l'hôtel de Chevrière, où allait se juger le procès des 6 chefs d'atelier. Tous les mutuellistes étaient convoqués pour protester, par leur présence, contre l'arrestation de leurs camarades. La veille, revenant de voir son père à Limoneste, Marius avait croisé de nombreux véhicules s'éloignant de Lyon, aux lueurs sanglantes des brandons, flambant sur les coteaux et aux huchements lugubres des bergers. Il avait compris que le jour du soulèvement était venu, que l'heure des revendications sociales avait enfin sonné. Cette panique des bourgeois lui donnait confiance et lui faisait espérer que la lutte serait courte, le triomphe du peuple facile. Au bout du pont, il s'entendit héler et aperçut Martinon qui l'aborda. « Comment va ton père ? En as-tu de bonnes nouvelles ?» Marius répondit. Son père allait beaucoup mieux. Sa santé était bonne et sa maladie se guérissait peu à peu. Il ne divaguait presque plus. « Tant mieux, » reprit Martinon. « Il faut espérer qu'il nous reviendra et que nous ferons ensemble encore des parties de boules. C'est un si brave homme, le père Jacquemin. Et tu vas voir juger, je parie. « Oui, vous aussi ?»« Ma foi, oui, bien que je ne sache pas trop ce que nous allons y faire. » La place Saint-Jean était déjà encombrée de monde. Là d'être debout, des ouvriers s'étaient assis sur les marches de la cathédrale, sur les bornes qui entouraient la fontaine. Des groupes compacts obstruaient les abords de l'hôtel de Chevrière où se tenait l'audience. Martinon et Marius avancèrent péniblement au milieu de cette foule pressée. « Ah, te voilà donc, Marius ! C'est commencé !» Le dos appuyé au mur, Nerbollier, renonçant à pénétrer dans la salle bondée, fumait tranquillement sa pipe. D'abord, il n'avait pas remarqué Martinon et fut gêné de le trouver avec Marius, auquel il avait à parler. Cependant, il vint leur tendre la main en bon garçon content de trouver des camarades. « Vous savez, dit-il, pas possible d'aller plus loin. Pas mèche d'entrée. Là-dedans, c'est plein comme un œuf. Nous aurions dû venir plus tôt, observa Marius. Enfin, il n'y avait qu'à faire comme lui, fumer une pipe et causer en attendant des nouvelles. De temps en temps, les ouvriers qui se trouvaient sur le seuil de la salle répétaient à ceux du dehors ce qu'ils avaient entendu. Et leurs propos circulaient dans la foule, colportés de bouche en bouche, depuis la cour de l'hôtel jusqu'au fond de la place. Sur le mur blanchi à la chaux, une inscription au charbon attira tout à coup les regards de Marius. « Les témoins à charge sont de foutugueux, qu'ils prennent garde à eux !»« Regardez donc, » dit-il. « Tiens, » fit Nerbollier. Sûr, il n'y a pas longtemps que c'est écrit. Il n'y a qu'un instant, j'étais là. Le mur était blanc. En tout cas, l'avertissement n'est pas inutile, car il y en a qui ont la langue bien longue quand il s'agit d'accuser les camarades. D'après les bruits du prétoire, plusieurs témoins avaient apporté des charges accablantes contre les prévenus. Est-ce que tous n'auraient pas dû faire comme le père Besacier ? Continua Nerbollier s'animant. Le vieux a gueulé, mais il s'en est tenu là. Tout à coup, il se fit une poussée du dedans au dehors. Des ouvriers sortaient en masse, par la porte grande ouverte, parlant haut et gesticulant. Que se passait-il? Martinon, s'avançant, questionna un individu en costume de compagnon, la casquette en arrière, l'air fort irrité.
« Il y a, bon Dieu, dit l'homme, qu'on nous fiche à la porte, sous prétexte qu'on fait du bruit. »
Le président fait évacuer la salle et renvoie la suite des débats à mercredi prochain. Ce que j'y vois de plus clair, moi, c'est qu'ils veulent empêcher qu'on entende toutes les saletés que racontent les témoins.
« Mais il y en a un qui va faire condamner mon frère. »
« Je me rappellerai sa figure. S'il tombe entre mes pattes sûres, il passera un mauvais quart d'heure. » Et, les poings serrés, la mâchoire en avant, il menaçait du geste.
« Oui, oui, » dit Nerbollier, « on saura les reconnaître, ces gueules de lâches. »
Silencieux, Martinon haussa les épaules. Tout ce qu'il aurait pu dire eût été inutile. Les têtes se montaient de plus en plus. La nouvelle du renvoi de l'audience se répandait. Dans les groupes, les ouvriers critiquaient violemment la conduite du tribunal. Ah, les juges voulaient permettre aux témoins de mentir, de satisfaire leur rancune, sans qu'il y eût un bon citoyen pour les confondre. Eh bien, on verrait s'il n'y avait de justice que pour les vendus. Gare à ceux qui auraient fait condamner leurs frères. Un jour ou l'autre, on les retrouverait. Des affiliés des droits de l'homme soufflaient la discorde et excitaient les passions. La foule qui n'avait pas quitté la cour et les abords de l'hôtel s'accroissait de tous ceux qui étaient sortis. Bloqués dans la salle, sous la protection d'une poignée de gendarmes, les juges, les avocats, le ministère public, les témoins, hésitaient à se montrer, redoutant de s'aventurer dans cette cohue menaçante. En toute hâte, le président venait d'envoyer un huissier avec l'ordre d'amener un piquet de soldats pour dégager les abords. On pouvait tout craindre de ces hommes en délire. Allant de groupe en groupe dans la cour, le compagnon redisait les accusations que le témoin avait porté contre son frère. Tout à coup, il se précipita, les yeux sanglants, culbutant tout le monde sur son passage. Du poing, il montrait un homme en blouse qui, sournoisement, cherchait à se glisser à travers la foule et à gagner le portail de la cour.
« Arrêtez le scélérat ! Arrêtez-le, que je le tue ! Ce lâche qui a dénoncé mon frère !»
Tous les yeux se tournèrent vers lui, l'interrogeant. À qui en voulait-il?
« La blouse »
cria-t-il d'une voix rauque. « La blouse !» Aussitôt, des mains se tendirent vers l'individu que son costume trahissait et l'empoignèrent rudement, au collet, aux vêtements, aux cheveux. Un soufflet jeta son chapeau à terre. Pâle, tremblant, il demandait grâce. Mais autour de lui, la fureur redoublait. Il était injurié, frappé, renversé, foulé aux pieds, comme une bête venimeuse. En vain, Martinon et ses amis s'efforçaient de retenir le compagnon. Par une brusque secousse, la colère décuplant ses forces, lui s'échappa de leurs mains et, comme un fou furieux, se rua sur le témoin.
« Laissez-le-moi »
hurlait-il d'une voix haletante.
« Il m'appartient !» « Ah, canaille, je vais t'étrangler, t'arracher ta langue de vipère !»
Et, les deux genoux sur sa poitrine, le tenant à sa merci, il lui criblait la figure de coups de poing.
« Tiens donc, traître, on t'a payé pour vendre mon frère. À mon tour maintenant, lâche !»
Il voyait rouge et frappait sans relâche, excité encore par le sang qui jaillissait sous la violence de ses coups. Autour, les ouvriers faisaient cercle. Ils ne frappaient plus, mais la vengeance leur semblait juste. Ils la laissaient s'accomplir. De jeunes avocats en robe, attirés par le bruit sur le seuil du prétoire, accouraient à la vue de cette scène sauvage, criant «
À nous, les bons citoyens, ne laissons pas massacrer ce malheureux !»
En même temps, un magistrat en robe fendait la foule, qui le laissait faire, par respect pour son costume. Arrivé au milieu du groupe, courageusement, il saisit l'agresseur au collet et le força à se relever. « Au nom de la loi, je vous arrête. Je suis le procureur du roi. »«
Ah, vous êtes le procureur du roi ? » cria le compagnon.
« Eh bien moi, je suis Louis Geoffrey. »«
Compagnon tisseur, et je venge mon frère. Ce n'est pas vous qui m'en empêcherez. »
Il se débattait sous l'étreinte du magistrat. De l'hôtel de Chevrière, des gendarmes, des huissiers, arrivant au secours du procureur, poussaient furieusement la foule. Les ouvriers, se pressant davantage, les arrêtaient à chaque pas. Après de grands efforts, ils parvinrent enfin jusqu'au procureur du roi. Mais le compagnon était libre. Il s'était échappé des mains qui le tenaient, et la cohue, qui grondait tout autour, s'était refermée sur lui pour protéger sa fuite. Les bras croisés, pâle, l'attitude ferme, le procureur attendait. Il fit relever la victime à demi morte et ordonna aux gendarmes de l'escorter, le sabre à la main. À leur tête, il traversa de nouveau la foule et rentra le dernier dans la salle d'audience, dont il fit refermer la lourde porte. Alors, toute la fureur de la foule se réveilla. Elle s'agitait, houleuse, aux voix des hommes qui l'excitaient. Des clameurs terribles s'élevaient. Des ouvriers prenaient des pierres. D'autres proposaient d'aller chercher des haches, d'enfoncer la porte et de se ressaisir du témoin pour l'achever. Mais une grande poussée se fit, refoulant vers la cour de l'hôtel la multitude qui couvrait la place. Dans le tumulte, on entendait le bruit cadencé d'une troupe en marche. Un piquet de 60 hommes, du 7e léger, un capitaine en tête, l'épée à la main, déboucha de la rue du Doyenné en colonne par quatre, au pas accéléré.
« Oh, ça va se gâter !» dit Nerbollier à Marius.
« Gare le grabuge !»« Ce serait pourtant bête de se faire tuer comme des chiens, sans une arme pour se défendre. »
À 10 pas de l'hôtel, le capitaine commanda halte et rangea ses hommes en bataille, sur 2 rangs. Il pensait que la présence de la troupe suffirait à éloigner les manifestants. Mais les têtes étaient montées. Les audacieux retinrent les timides. Personne ne bougea. Même des ouvriers adjuraient les soldats de se souvenir qu'ils étaient des enfants du peuple et essayaient de les entraîner à la révolte. Martinon, Marius, Nerbollier, les hommes raisonnables, tâchaient de calmer leurs camarades. Résister en ce moment serait stupide. Il fallait au moins attendre qu'on eût des armes. Ils parlaient en vain. Les cris couvraient leurs voix. Le tumulte croissait toujours. Voyant qu'une simple démonstration ne suffisait pas, le capitaine fit mettre la baïonnette au canon. Sur tout le front de la troupe, ce fut un cliquetis d'acier. Dans la foule, les timides reculaient. Mais les enragés firent quelques pas en avant pour braver les soldats qu'ils se mirent à injurier.
« Tiens, on voulait leur trouer la peau à présent ?
Ils n'étaient donc pas français ? Ces culottes de rouge qui se préparaient à tuer des ouvriers ?
Tas vendus !»
Vociférant, il s'avançait toujours. Le capitaine avait ordre de ne pas faire usage des armes. Les lèvres serrées, il restait impassible. Un vieux, à barbe grise, s'était approché à 5 pas des soldats et, les manches retroussées sur ses bras velus, les provoquait.
« S'il y en a un parmi vous autres, qui ait du cœur au ventre, qu'il pose donc sa seringue, qu'il vienne faire voir ce qu'il sait faire de ses 2 bras. On en a descendu 7 à Waterloo. Tout vieux qu'on est, on en descendra bien 1/8, sans Dieu. »
Les soldats, poussés à bout, crispaient les poings. Une injure de plus, et les fusils allaient partir d'eux-mêmes. Devinant le péril, Martinon se jeta entre la troupe et les agresseurs, suppliant les uns et les autres de se retirer. Il n'était pas un lâche. Il avait fait ses preuves, lui aussi, à Austerlitz, à Wagram et ailleurs, témoin le ruban qu'il portait à sa boutonnière. Il avait été capitaine de la garde nationale à la Croix-Rousse. Beaucoup des ouvriers qui l'entendaient s'étaient trouvés sous ses ordres. Quand il avait fallu faire respecter les droits des tisseurs, en novembre, il avait marché au premier rang. Parlant avec son cœur, s'adressant tantôt au capitaine, tantôt aux ouvriers, il finit par obtenir ce qu'il voulait. Le capitaine consentit à faire rétrograder ses hommes jusqu'au bout de la place, à la condition que la cour de l'hôtel serait immédiatement évacuée. Et, les hommes raisonnables étant parvenus peu à peu à calmer les furieux, les ouvriers acceptèrent cet accommodement. Dès que les soldats eurent fait demi-tour, l'irritation de la foule tomba. Vers l'entrée de la rue du Doyenné, la troupe fit halte. Alors, fier d'avoir traité mais non cédé à la force, jaloux d'obéir à la parole donnée, les ouvriers s'écoulèrent lentement par les rues avoisinantes. Tout rentra dans l'ordre. Nerbollier accompagna Marius et Martinon jusqu'à la place Montazé, à l'entrée du pont Tilsitte. Les quais étaient tranquilles. Sur la rive droite de la Saône, de chaque côté du pont, de petites vagues clapotaient contre le pied des maisons qui trempaient dans l'eau. Le soleil d'avril s'inclinait vers le coteau de Saint-Just, dorant de ses derniers rayons le port Saint-Antoine et les silhouettes pittoresques des maisons du pont de pierre, hardiment suspendues sur les tourbillons de la mort qui trompe. Nerbollier souhaita le bonsoir à ses compagnons. Il rentrait à Saint-Georges. Serrant la main de Marius d'une manière significative, « À demain, » lui dit-il. « À demain, à l'enterrement, n'est-ce pas ?» On allait enterrer le lendemain un vieux chef d'atelier, le père Rochon. Comme il était mutualiste, les membres de la société étaient convoqués à la cérémonie et devait s'y rendre en foule, puisque tout travail était suspendu. Marius comprit que Nerbollier avait une confidence à lui faire. Il promit de se trouver au rendez-vous le lendemain, et reprit avec Martinon le chemin de la Croix-Rousse.